Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
J'avais le trac comme maman peut avoir le trac quand elle explique à sa petite fille ce que c'est les règles, quoi. On sait que c'est des sujets importants, qu'il faut les dire. Voilà. C'était une libération, hein.
Moi, ça a été fait donc le 24 décembre, donc à repas de Noël, il devait être 22h, quelque chose comme ça. Je me suis dit, tiens, tous ces petits catholiques là qui me gonflent avec leurs prières, leurs messes tous les dimanches, la communion, enfant de cœur, tout ça. Je me suis dit, au moins ça va les secouer et puis au moins ça sera fait. Ça a été quelque chose d'assez jouissif.
Je me suis dit, Charlène, c'est mort, tu peux plus reculer, t'es obligée de le dire. J'étais dans ma tête, j'ai rougi, je dis, oh là là, maman, si tu savais. Et c'est sorti.
Ils racontent aujourd'hui l'heure et le moment qu'ils ont choisi pour le dire, ou bien celui qui s'est imposé à eux. Hélas, ils utilisent encore le verbe « avouer » plutôt que celui d'annoncer, révéler ou juste dire. Aujourd'hui, on appelle ce moment celui du « coming out », contraction de l'expression américaine « coming out of the closet », c'est-à-dire sortir du placard, de la honte, cesser de se cacher et dire tout haut son homosexualité ou sa véritable identité sexuelle. En France, le premier coming out grand public, si on peut dire, a eu lieu en 1972 dans un entretien publié par le Nouvel Observateur intitulé « La révolution des homosexuels ». L'auteur y parle à la première personne et commence par un très sobre mais retentissant « Je m'appelle Guy Hockenheim, j'ai 25 ans », etc. Avant lui, on peut dire bien sûr qu'il y eut le coming out de Platon et Socrate. Celui de Gide, qui écrit dans le Coridon un véritable manifeste homosexuel, rendu public en 1924, ou encore ces vers de Jean Lorrain, « J'ai couché cette nuit entre deux débardeurs qui m'ont débarrassé de toutes mes ardeurs ». À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie, une journée qui devrait d'ailleurs se tenir tous les jours, 365 fois par an, nous avons donc rencontré Anthony, Florence et Sophie à la terrasse d'un café de la rue des Archives dans le Marais à Paris, Charlène qui a grandi en Bretagne du côté de Redon, Thomas qui vient des Antilles d'une famille de militaires et enfin Vincent, père de famille. Ils racontent tous leur coming out dans les pieds sur terre et ce sont des histoires recueillies par Delphine Saltel.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je rentrais du collège, j'étais en troisième, j'ai même pas eu le temps de poser mon sac, je me suis assise, elle m'a dit faut que je te parle, j'ai senti que c'était grave. Elle me dit ouais lis et tout, assieds-toi, lis. J'ai lu le truc, j'ai dit waouh non, ah putain, c'est la fin des haricots, c'est le début des emmerdes. C'était une lettre de mon ex quoi qui voilà, je l'avais quitté pour diverses raisons et qui vraiment voulait que je revienne, etc. Donc du coup voilà, elle s'est lâchée dans la lettre, elle s'est lâchée.
Et elle est dans la lettre.
Oh fou, t'es la femme de ma vie, des choses sexuelles en plus, enfin ouais. Mais à la place de ma mère, ça doit faire mal de voir des trucs comme ça quand même. Du coup voilà, j'ai vraiment vu la décomposition sur son visage, les pleurs, l'énervement, passer vraiment par tous les stades. Enfin, t'es qu'une gouine, une sale gouine, c'était la honte de la famille, je vais appeler tout le monde pour leur dire. Il n'y a aucun mot qui sortait de ma bouche, c'était horrible, vraiment horrible.
Et vous? J'avais 19 ans. C'était en pleine journée, elle était en train de faire la vaisselle, ma maman. À un moment, je lui ai dit « Arrête de me parler des mecs ». Elle m'a dit « Pourquoi, t'es lesbienne ?» Je lui ai dit « Oui ». Et à ce moment-là, elle a fait tomber la marmite qu'elle était en train de laver, elle a sursauté, elle m'a dit « Tu te fous de moi ?» Je lui ai dit « Non ». Et puis, elle était choquée, elle s'y attendait pas. J'ai cru qu'elle allait tomber. Elle m'a dit « De toute façon, aujourd'hui, enfin les jeunes d'aujourd'hui font tous n'importe quoi ». Pour elle, c'était pas normal, il fallait que je sois entre guillemets comme tout le monde, que je rentre dans la normalité. Enfin, elle me voyait avec un homme, elle me voyait mariée, elle me voyait avec des enfants, mais moi je voyais autre chose. Une femme. Mais après, elle a pas eu le choix d'accepter. C'était soit elle accepte, soit elle me revoit plus. Après, ça passe ou ça casse. C'est passé. Moi, j'ai grandi dans une cité, l'homosexualité est vraiment pas acceptée. Donc au début, effectivement, il y a eu des insultes, il y a eu sale queen, t'es la fille du diable, machin. Beaucoup de mots qui m'ont fait du mal. Moi, c'était voilà, ces petits jeunes de banlieue, elles étaient à peu près 10-12, un truc comme ça. Enfin, pour le coup, j'avais quand même peur de m'en prendre une. Le jour où vraiment mon coming out, pour moi, il a été réussi, ça a été le jour où ma mère elle a fait face à ce groupe de jeunes et le jour où elle leur a dit, voilà, ma fille, elle est lesbienne, et alors ? Elle était en pyjama, elle avait, je me rappelle, une djellaba, des babouches, une queue de cheval, elle est sortie à l'arrache. Elle a pas eu honte, en fait. Elle a pas eu honte de ce que je suis. Ça, c'était beau. J'étais contente.
Alors moi, c'était un peu différent, en fait. J'étais chez moi. Première rupture sentimentale, donc j'étais dans ma chambre et première chose que j'ai fait, donc ma mère était là et questionnait, mais j'ai pas voulu répondre. J'ai dit non, rien de grave. Et elle me dit bon, bah je vais faire des courses. Donc elle est partie faire des courses. Donc j'appelle ma meilleure amie pour lui expliquer que ça n'avait pas fonctionné, qu'il m'avait trompé, que j'avais pas pardonné, etc. Et en fait, une fois que j'ai raccroché, en fait, ma mère avait tout écouté derrière la porte et elle a ouvert la porte. Donc là, j'ai eu peur en fait. Peur d'être tout seul et vraiment de ne plus avoir la famille. Et c'est quelque chose quand même d'assez important et de ne plus avoir ça. Donc je me dis, ouais, si je le dis, ça risquerait peut-être de tout gâcher et d'avoir le clash avec ma famille et plus les voir, quoi. Je serais carrément tout seul à cause de ça, entre guillemets, mais bon, je ne l'ai pas choisi. Donc voilà. Il fallait que je trouve la solution pour pas le dire. Pourtant, ça aurait été la bonne solution de le dire. Mais j'essayais de camoufler en disant non, tu t'es trompé et tout. J'ai dit elle. Enfin, c'était vraiment la panique totale, quoi. Donc elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, faut que t'arrêtes. Après, ça sera trop tard. Enfin, vraiment la panique, quoi. Pour me défendre, j'ai dit, j'ai juste essayé et je le referai plus. Voilà ce que c'est la seule chose que j'ai répondu, en fait. Et depuis, ça s'arrête. Et quand on me demande si j'ai quelqu'un dans ma vie, je dis peut-être oui, j'ai une copine ou non, j'ai personne, mais ça s'arrête là, en fait. Tout simplement. Je me sens lâche, en fait, de faire croire même à ma famille que j'ai une copine ou que même je suis célibataire, alors que non, quoi. Moi, c'est les garçons qui m'attirent et je le sais.
Vous en rêvez, des fois ?
Ça m'est arrivé une fois, en fait, je rêvais vraiment que je leur disais, qu'on discutait, et puis je leur avouais que je préférais les hommes que les femmes, mais que je les aimais toujours, et que j'espère qu'il n'y aurait pas de problème et tout ça, et voilà. Puis après, ça se passait bien, mais ça, après les rêves et la réalité. Mais je pense qu'elle, sans doute, elle le sait.
Attends, tu m'avais passé pour ta copine, attends, franchement, non, s'il te plaît, c'est abusé, non, mais elle...
C'est vrai, vous avez joué...
Oui, je connais ses parents, c'était vraiment dur de jouer la petite amie, franchement. Alors Anthony, c'est un queutard, non, ouais, je sais pas, demande à son mec. Non, c'est pas vrai, non, vraiment, c'était assez dur, même pour moi, c'était dur de leur mentir quand même, enfin... C'était pas trop crédible. Et sa mère qui me dit, ouais, pourquoi tu mets pas de jupe? C'est pas mon style. Donc voilà, non, ça reste assez dur. Ouais.
C'était à quelle occasion?
Non, c'était mes 20 ans. Donc c'était quand même un grand moment, les 20 ans avec toute la famille. Et j'avais pas le choix, en fait.
Il y avait de la famille partout, vraiment. Ses grands-mères, il y avait tout le monde, quoi. Je me sentais assez mal à l'aise, je pense que lui aussi, mais bon, on a essayé de jouer le jeu, quoi.
Ouais, c'était dur. Là, du coup, je mentais carrément à toute ma famille, même pour. Je sois tranquille, en fait. J'étais un peu triste, mais bon, vu que c'était ambiance fête, je me voyais pas leur avouer ça à ce moment-là, en fait. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui peut rendre malade aussi, hein. Se dire, faut que je réfléchisse, qui je vais emmener, qu'est-ce que je vais dire, pas faire de gaffe, c'est vraiment dur. Je me vois toujours pas, en fait, être assis sur un canapé avec ma mère et lui dire, bon, bah écoute, voilà, je suis homo. La phrase qu'il faut sortir...
C'est la phrase.
Ouais, ça sort pas. La peur, peut-être la déception, je sais pas, mais en tout cas, ça sort pas.
À Un jour, j'étais en train de regarder avec mes parents le film avec Josiane Balasco, Gazon Maudit, où justement elle joue le rôle d'une lesbienne. Et c'est vrai que mes parents, ce jour-là, ils ont dit « Franchement, nous, on veut pas d'homo dans la famille parce que si jamais ça arrive, moi, les homos, je les tue. Ça doit brûler comme Jeanne d'Arc. » Donc c'est vrai que c'était assez violent comme réaction. Et je dis « Mais maman, il y en a dans mon école. C'est pas pour autant que tout le monde est homosexuel dans mon école. » Et ma mère, elle a fait « Ouais, ben, ils ont de la chance. Ils ont dû être immunisés contre ça. Que c'était contagieux, que c'était une maladie. Qu'il y avait un gène au cerveau, que c'était comme si on était des meubles IKEA montés à l'envers ou qu'il y avait une pièce qui avait été oubliée et que c'était totalement débile et que ça devrait être interdit. » J'avais essayé avant de leur faire comprendre par des sous-entendus, mais non, mais de toute façon, moi, maman, j'aurais jamais de copains. Les garçons, franchement, ils sont trop bêtes. Franchement, pourquoi je ne pourrais pas me mettre avec une fille ? Et ma mère disait « Ah, tout, tu dis ça pour rigoler. Ah, » Et puis elle appelait mon père en disant « Écoute ce qu'elle a dit, celle-là. » Elle dit « Ah, tout, les garçons, c'est tellement nul. » Et ma mère me disait « Mais non, mais c'est pas parce que tu t'es fait caler par un ou deux garçons que tous les garçons sont pareils. Moi, j'ai bien trouvé ton père. » Puis ma mère qui débattait toujours, c'était un débat conflictuel, elle voulait pas comprendre. Quand ma mère disait « Ah, il est beau DiCaprio, il est beau. » Je disais « Mais non, Gina Jolie, elle est plus belle quand même. » Bon, ma mère pensait que c'était, on va dire, mon idéal, que je rêvais, lui ressemblait physiquement, mais c'était pas ça, en fait, elle a pas compris le sens de la chose. Et puis, des fois, ma soeur me disait, regarde, j'ai un copain, tu trouves comment? Enfin, c'était des petits trucs bêtes. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais ils sont chiants avec ça, mais ils sont chiants. Puis, j'en avais vraiment marre de repousser cette date d'échéance, quoi. Mais je me plonge, en fait, pour éviter d'y penser justement au jour où je devrais avouer, je me plongeais à corps et âme dans les études, dans le sport, dans les loisirs, dans les lectures, je faisais tout pour m'occuper d'esprit, ne pas penser justement à ce jour-là, même si je savais pertinemment qu'un jour je devrais assumer ce que je suis. Donc j'avais une copine depuis quelques temps, et comme ça me pesait tellement lourd depuis des années et des années, je me suis dit « Charlène, t'es majeure, dis-le, de toute façon il faudra bien que ça sorte un jour ». C'était dans un état de stress mais assez haut. Et j'ai dit à mes parents, bon papa, maman, j'ai quelque chose à vous avouer, mais il faut d'abord que vous vous asseyez. Ma mère toute contente, tu vas voir, elle mettait des coups de couture, tu vas voir, elle est enceinte, elle a un petit copain. Dans ma tête, j'ai rougi, je dis, oh là là, maman, si tu savais. Je me suis dit, Charlène, c'est mort, tu peux plus reculer, t'es obligée de le dire. Et c'est sorti. Et j'ai dit, voilà, papa, maman, je suis lesbienne, je suis homosexuelle, appelez ça comme vous voulez. Mon père est s'élevé d'un coup du canapé, parti du salon. Et ma mère a dit « Les homosexuels sont une secte de drogués et d'alcooliques. Tu finiras clocharde, t'es la honte de la famille. » Mon père revient, le fusil à la main, il dit « Dégage ou je te troue la tête. » Et mon père était vraiment prêt à tirer. Et là, j'ai eu un petit moment de panique en disant « Mais non, il va pas le faire. » Sachant que toutes les fenêtres étaient ouvertes, de toute façon, tout le village aura entendu vu le nombre de voisins qu'on a. Là, je me suis dit « Souhaiter la mort de son enfant parce qu'il est homosexuel, c'est irrationnel. » Maintenant, tes parents le savent. Charlène, toi, t'as pas à avoir honte, tu vis ta vie. Maintenant, t'es libre, je me suis sentie libre. C'est comme si j'avais un boulet à mon pied. Puis, un jour où je dis à mes parents, hop, il n'y avait plus de poids après. C'était la libération, on va dire ça, comme ça. Ma grand-mère l'a su par ma mère, parce que ma grand-mère disait « Ah, bah pourquoi Charlène, on ne la voit plus ?» Et ma mère finit par lui dire. Et ma grand-mère, elle m'a dit « J'ai pas forcément envie de te parler, parce qu'elle dit c'est immonde ce que t'es devenue. » Ça m'a déçue, j'ai pleuré au téléphone, j'ai dit « Mais mamie, elle m'a raccroché la figure. » Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle m'a vu grandir pendant des années, et puis là, j'ai plus de grand-mère, quoi. J'ai dit « Maintenant, il me reste qui ?» C'est surtout ma grand-mère, quoi. Ça, c'est mon objectif premier, c'est récupérer ma grand-mère qui m'accepte et qui me regarde toujours comme la petite fille qu'elle a toujours eue et pas comme une étrangère malade, quoi. On se rend compte que les personnes y vieillissent et qu'ils peuvent partir du jour au lendemain. Et si ma grand-mère part, avant même que j'ai le temps de lui dire que j'aime telle qu'elle est, c'est bon, et ben ça va me faire mal. Et je devrais apprendre à vivre avec ça. Mon grand-père, d'ailleurs, avant de mourir, il me l'avait dit, justement. Il dit, je sais que t'es lesbienne. Il dit, la Charlène, là. Il dit, toi, tu ne m'auras pas caché quelque chose depuis des années. J'ai merde, ici que je fume des cigarettes. J'ai oulala, je vais me faire engueuler. J'ai oui, papy, je fume. Il dit, mais non, c'est pas ça que tu fumes. Il dit, hein, voilà tes conneries. Il a dit, ça, c'est une belle connerie de fumer. Hein. Mais il dit, je sais que t'es lesbienne. Il dit, je sais que l'autre fois, t'es venu avec une copine, c'était ta copine à toi. Il dit, tu creux donc que je l'ai point vu. Et il m'a dit, c'est pas pour autant que je t'accepte pas. Et il est mort le lendemain. Et il le savait, il l'avait accepté. Et il le savait depuis déjà quelques temps. Et j'en ai beaucoup souffert, mais j'ai tenu bon. Je me suis dit, Charlène, maintenant tu dois faire ta vie. Tu dois travailler, tu dois avoir un appartement, être indépendante. Et une fois que ta famille et tes amis auront vu que tu t'en sors, malgré toutes les épreuves que tu as traversées, ils verront que tu es forte et peut-être qu'ils changeront d'opinion. Et c'est ça en fait. C'est comme ça que je tiens en disant peut-être qu'un jour mes parents ils seront peut-être fiers de moi et peut-être qu'un jour ils s'excuseront.
Bah moi ça a été fait donc le 24 décembre, donc à repas de Noël, il devait être 22h, quelque chose comme ça. J'avais 16 ans, donc juste avant d'ouvrir les cadeaux, après avoir fait la prière pour manger, enfin c'était presque 60 à table. Des grands-parents, des tantes, des cousins, des cousines, il y avait tout le monde quoi, enfin la famille proche, donc réunie au complet, chez mes parents. En fait, je me suis dit, bah tiens, tous ces petits catholiques là qui me gonflent avec leurs prières, leurs messes tous les dimanches, la communion, enfant de cœur, tout ça. Je me suis dit, bon, bah au moins ça va les secouer. Et puis, ça a été quelque chose d'assez jouissif. Le coup final de l'année, enfin, c'était impérial, quoi. Puis c'était, oui, enfin, le 24 décembre, c'est très, très catholique, très croyant, tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, on va bien foncer dedans, histoire de rigoler un petit peu. Et puis en fait, il y a des gens que j'aimais pas, donc je me suis dit, tiens, ils vont peut-être partir. Puis en fait, mon plan n'a pas marché. Mais c'était marrant. J'ai dit, j'ai quelque chose à vous dire. Donc là, ma mère me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Je lui ai dit que non. Mon père m'a dit, tu ne peux pas avoir d'enfant? Je leur ai dit non. Je leur ai dit, voilà. Moi, les filles, c'est pas mon truc, donc je préfère les garçons. Et donc là, ça a été un froid. Tout le monde se tourne l'un vers l'autre et tout le monde commence à piapiater. Étant donné que c'est des Antillais, donc forcément, les ragots, ils aiment ça. Donc c'était vraiment des petites messes basses, tout ça. Donc moi, jusqu'à ce que ma mère tape du poing sur la table et leur dise de la fermer, quoi. Et que s'ils sont pas contents, qu'ils prennent leurs affaires et qu'ils partent ou qu'ils se taisent. Ça a été clair, hein. Personne n'est parti de table. Bien dommage. Et puis après, ma mère m'a dit, tu es comme ça, je préfère que tu sois comme ça que curé.
Devant tout le monde.
Devant tout le monde, oui, alors qu'ils sont très croyants. Elle m'a dit, je le savais, mais je t'en ai jamais parlé, parce que c'était pas à moi de t'en parler, c'était à toi de m'en parler. Et mon père a eu du mal à l'accepter. Il m'a demandé de venir dans la cuisine avec lui. J'y suis allé. Il m'a attrapé j'avais les pieds qui ne touchaient même plus le sol. Ça a été le coup de massue, quoi. Enfin, je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Et c'était de l'énervement, de la colère, des pleurs. Enfin...
Il a pleuré ce soir-là?
Ah ouais. C'était pas normal, que c'était un manque de lui, de son éducation. Enfin, qu'il avait tout raté. Que je ne pouvais pas être comme ça, qu'il fallait que j'aille voir un médecin parce que c'était une maladie grave, c'était tu vas être un faible, on va te faire la misère, ça va être un calvaire pour toi, donc change ça tout de suite. Et après il s'est calmé, il est parti dans son coin, je suis parti dans mon coin, et le repas de Noël a continué.
Mes enfants avaient 4 et 6 ans, donc c'était petit. C'est des âges où même le concept de l'amour n'est pas évident à exprimer, donc a fortiori quand il s'agit d'homosexualité. Donc c'était un jour en semaine, c'était une semaine où j'avais les enfants qui étaient à la maison.
J'avais le trac comme une maman peut avoir le trac quand elle explique à sa petite fille ce que c'est les règles, quoi. Et j'ai attendu le moment du dîner pour évoquer avec eux le fait que l'ami qu'ils connaissaient, qui était mon ami de l'époque, avec qui on vivait pas, mais qui côtoyait régulièrement, j'aurais dit très simplement que c'était quelqu'un que j'aimais, que c'était pas juste une relation amicale, mais c'était une relation amoureuse. Voilà. Il n'y a pas eu une réaction très franche. Mon fils qui est plus petit, qui avait 4 ans, elle n'a rien dit. Et ma fille qui est plus grande, qui avait 6 ans, a réagi de façon assez indifférente, en fait. Elle a bien compris. Et en fait, moi, ce que j'aimais dans cette réaction, qui était presque une non-réaction, c'est que finalement, c'était une façon de dire on s'en fout un peu, mais ce qui compte, c'est ce que ça va devenir. Voilà. 4 et 6, c'est petit, quoi. Donc, j'aurais très bien pu me dire... On va plutôt attendre qu'ils soient un peu plus grands, et puis je leur dirai.
Votre femme, elle disait quoi sur le fait qu'il fallait le dire aux enfants ?
Mon ex-femme, ouais. Elle voulait pas que je le dise aux enfants. Elle est aussi une culture familiale où il y a des secrets de famille et qu'il faut bien les garder. Voilà. Donc elle, ce qui lui aurait convenu, c'est que je reste caché et que j'annonce rien aux enfants. Tu dis rien, tu vis ta vie, mais les enfants, ils sont en dehors de ça. Et puis après, ça a été ok, mais ils sont trop jeunes. Enfin... tous les prétextes pour que on cultive un secret de famille, quoi. Voilà. En fait, ce qui m'a motivé, c'est que il y avait un enjeu de vérité. Quel que soit l'âge, il faut être vrai. Enfin, j'avais envie d'être vrai vis-à-vis de mes enfants. J'avais pas envie d'en balancer trop. Et j'ai attendu que les questions viennent. Voilà. On sait que c'est des sujets importants, qu'il faut les dire. En même temps, c'est pas des montagnes non plus. Enfin, parce qu'il y avait de l'amour, en fait. Voilà. Je pense que si j'avais dû parler du concept de l'homosexualité avec les enfants, ça aurait été hyper dur. Là, je leur parlais d'une personne que j'aimais, et j'aurais expliqué ce qu'il y avait derrière. Donc, c'était un angle qui n'était pas théorique, mais qui était du cœur. Et les enfants, bah, ils savent ce que c'est l'amour, ils savent ce que c'est d'aimer son papa, sa maman. C'est plus tard où les questions sont venues par petits bouts, sur ce que c'était. Est-ce qu'on s'embrassait sur la bouche, voilà, des choses... comme un enfant peut demander à des parents qui sont hétéros, mais avec une énigme un peu différente quand il s'agit d'homosexualité. Après, c'est venu par petites bribes, avec des affirmations, notamment de ma fille qui voulait pas qu'on ait de gestes d'affection trop proches, qui me l'a exprimé avec des dessins au début, deux hommes qui s'embrassaient, et puis une histoire qu'il y avait autour... et elle exprimait, elle, sa gêne et son désarroi, quoi, voilà, vis-à-vis de ça. Et pour elle, c'était difficile de voir qu'on avait des signes d'affection. Donc j'ai respecté et en même temps, je lui ai expliqué que il y avait des gestes d'affection que je souhaitais continuer à avoir parce que, voilà, quand on a de l'amour pour n'importe qui, ça peut être un frère, une sœur, une mère, on a envie d'avoir des gestes d'affection, qu'elle n'a pas le droit de me les supprimer. Par contre, il y avait certains gestes, comme s'embrasser sur la bouche, qui la gênaient, que je... et je respectais ça, voilà. En fait, je m'aperçois que même du haut de ses 12 ans, elle a son identité et que je dois la respecter, voilà. Elle a le droit hein, de ne pas accepter, elle a le droit de considérer que elle n'a pas choisi d'avoir un père comme ça, voilà quoi. Donc ma fille, elle est vachement dans le conformisme. Bon, puis c'est un âge aussi, hein, c'est le début de l'adolescence. Le fait de ressembler aux autres, d'avoir les mêmes vêtements, les mêmes activités, etc. C'est des éléments qui sont hyper importants. Donc là, c'est l'homosexualité, c'est clairement un élément différenciant. Donc pour elle, c'est hyper dur. De toute façon, quand on est parent, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'essayer d'aimer ses enfants le plus possible, quoi, jusqu'au bout, inconditionnellement. Voilà, c'est ça. Hein. Donc ouais, je pense que j'ai pas fini d'en voir. Je pense qu'il y aura des moments durs, mais voilà. Peut-être qu'elle me rejettera un jour, qu'elle voudra plus me voir. De toute façon, c'est hyper dur d'avoir des enfants qui ressemblent pas à ce qu'on attend d'eux, quoi. Donc c'est vrai que moi, ma fille, je suis toujours surpris par son côté très classique, très rangé, très conventionnel. Elle est très croyante, hyper catho, fait du scoutisme et tout. C'est peut-être aussi un mécanisme de différenciation pour s'affirmer qu'elle met en place, quoi. Voilà, ça se respecte, c'est pas grave. Mais oui, ça me fait... oui, c'est. Moi, j'aimerais avoir des enfants hyper tolérants, hyper cool, qui soient presque fiers que leur papa soit différent, etc. Parce que j'ai plutôt une fierté à être gay, quoi. Mais
Pour moi, c'était une libération, hein. Alors, beaucoup plus que quand j'en ai parlé à ma mère ou quand j'en ai parlé à mes amis proches. Une fois que je l'avais dit à mes enfants, je m'en foutais du jugement de tous les autres, en fait, vraiment. Et la vie continue.
C'était mon coming out, un reportage de Delphine Saltel réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de François Connac pour cette rediffusion d'une émission diffusée pour la première fois le 17 mai 2011. Sachez que depuis cette première diffusion, Charlène a quitté sa Bretagne natale. Elle travaille dans un magasin de fourniture pour les métiers d'art et les loisirs créatifs. Et du côté de ses parents, hélas, rien n'a changé. Elle les voit peu, ils n'ont toujours pas accepté son homosexualité et ils tentent toujours de lui faire changer d'orientation sexuelle. Seule sa grand-mère a accepté de lui parler et c'est désormais la seule personne de sa famille avec une tante de 90 ans à qui elle peut parler librement de sa vie amoureuse. Quant à Vincent, le père que l'on entend à la fin du reportage, il vit toujours avec le même homme et avec ses deux enfants. Et aujourd'hui, sa fille qui a 18 ans, elle dit que c'est plutôt cool d'avoir un père gay. Voilà, c'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. C'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire. Merci pour cette émission à Nicolas Noguier, à Marie Vachette, à Charlène, Vincent, Thomas, Anthony, Florence. Et j'en passe. C'était la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie.